Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ, l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisse-t-il nous accorder des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Mon texte se trouve dans Jean chapitre 17 et c'est du verset 16 au verset 26. Et je voudrais vous parler de l'unité qui est en Jésus-Christ. Nous savons que dans le monde, il y a plein de divisions et de querelles et même guerres entre les êtres humains. Et aussi dans les organisations religieuses, les lieux de culte, les assemblées qui se réunissent et professent se réunir pour adorer le Seigneur Jésus, pourtant, il y a beaucoup de divisions. Alors, où est-ce que nous pouvons trouver une véritable unité? Peut-être que ce n'est pas dans les organisations, et sans doute c'est le cas. Mais il faut savoir qu'il y a un corps spirituel qui est appelé le corps de Christ, le véritable Église. Je sais que les gens ont l'habitude d'appeler un lieu de culte l'Église. Mais l'Église signifie le peuple que Dieu le Père a choisi depuis l'éternité et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde donner sa vie et qu'il a racheté et justifié par son sang et que l'Esprit de Dieu a attiré au Seigneur Jésus dans la foi. Telle est l'Église. Le mot signifie ceux qui sont appelés. Appelés à Christ, appelés par l'Esprit de Christ et appelés selon l'élection de la grâce de Dieu. Et cela ne se trouve pas nécessairement dans les mêmes lieux. Nous savons que les élus de Dieu sont dispersés partout dans le monde, parce que les Écritures nous disent que le Seigneur Jésus-Christ est venu racheter un peuple à son Père de toute tribu et de toute langue et de tout peuple. Et ceux-là sont l'Église. Et partout où nous trouvons ceux-là, nous savons qu'ils sont déjà unis en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'organiser cette unité parce que la manière que l'Esprit de Dieu enseigne chacun à travers l'Évangile de Christ, chacun est déjà basé sur Christ et placé en Christ et racheté par Christ et enseigné par l'Esprit au sujet de Christ. Donc c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ prie ici dans Jean 17. Et commençant dans le verset 16, nous lisons, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Et c'est comme ça que ceux qui sont rachetés et appelés à Christ, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que l'Esprit de la grâce de Dieu a fait un changement en nous concernant notre perspective au sujet des choses du monde. Nous ne mettons plus la confiance dans les choses du monde, ni dans la chair. Mais, ayant un esprit régénéré maintenant par l'Esprit de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nos affections se portent maintenant vers Christ et nous désirons vivre pour sa gloire. Alors c'est de cela que le Seigneur Jésus fait mention ici dans sa prière en Jean 17 et le verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Bien vrai, Christ est venu dans la chair. Il était Dieu dans la chair, mais il n'était pas un homme comme les autres hommes. Il était un homme parfait. Il était un homme en qui Dieu le Père a donné son esprit sans mesure. Et il est venu pour accomplir la volonté de son Père et l'a accompli. Donc, étant dans le monde, mais séparé du monde. Et ça, c'est la deuxième fois dans cette prière du Seigneur Jésus qu'il fait mention de cela. Nous l'avons vu auparavant dans le verset 14 où il dit « Je leur ai donné ta parole ». Voilà ce qui fait la différence entre ceux du monde qui sont encore dans les ténèbres, ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas conscients de la gloire de Dieu en Jésus-Christ parce qu'ils sont encore morts dans leur péché. Mais pour ceux que Christ a rachetés, le temps venu, l'Esprit révèle Christ en eux et c'est à travers sa parole, exactement comme Christ dit ici, « Je leur ai donné ta parole. » Notez bien, c'est un don. C'est une révélation de Dieu par son Esprit concernant le Seigneur Jésus. Et pour ça, il dit, « Le monde les a haïs. » Voilà encore la manière que nous pouvons dire que ceux qui appartiennent à Christ ne sont pas de ce monde, comme Christ n'était pas de ce monde. Quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il était détesté, il était haï par ceux du monde, parce que cette chair lutte contre l'esprit, cette chair est en rébellion, cette chair ne veut pas un sauveur qui sauve effectivement. Cette chair veut toujours avoir part à son salut, c'est-à-dire pouvoir contribuer à son salut. Mais la Bible dit que non, le salut est de Dieu du début jusqu'à la fin. Et donc, ceux qui sont sauvés uniquement par cette œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et pour cela, comme le Seigneur Jésus lui-même était haï, ainsi ceux qui appartiennent à Christ sont haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. C'est Dieu qui fait une séparation, une différence. Ceux qui appartiennent à Christ sont appelés les enfants de la lumière et ceux qui sont laissés à eux-mêmes sont appelés les enfants des ténèbres. Donc, il y a une distinction. Mais Christ dit, comme moi, je ne suis pas du monde. Mais je dois dire que c'est une miséricorde d'être séparé du monde et uni à Christ. Donc la base de l'unification de ceux qui appartiennent à Christ est dans sa personne et par sa volonté et selon sa grâce où le Père a choisi ceux-là et les a séparés déjà depuis l'éternité et donnés à son Fils dans l'élection de la grâce. Et le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour accomplir leur salut. C'est pourquoi ils ne sont pas du monde, séparés du monde. Détestés du monde, bien vrai, mais aimés de Dieu dans sa grâce. Et cela avec un amour éternel. C'est un amour distinctif que Dieu a pour les pécheurs qu'il a choisis. Alors, nous voyons déjà comment ceux qui sont unis en Jésus-Christ, déjà par l'œuvre de Christ, et donc ne sont pas du monde. Et puis nous lisons dans le verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Donc nous devons regarder de près ce verset et comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier ici à l'égard de son peuple. La sanctification est l'œuvre de Christ Parce que c'est écrit, sanctifie-les par ta vérité. Christ est la vérité, mais il est aussi la sanctification de ceux pour qui il intercède. Il n'y a aucun aspect du salut qui n'a été laissé à l'homme d'achever. Non, le salut est de Dieu en Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Donc, c'est en cela aussi que ceux qui appartiennent à Dieu sont unis déjà. Voilà l'unification, l'unité qui est en Jésus-Christ déjà. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 30 et 31, nous lisons ceci. Or, c'est par lui, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Voilà le témoignage de ceux qui sont unis en Jésus-Christ, comment leur témoignage se ressemble. Et le témoignage est un devant Dieu et devant les hommes. Si quelqu'un nous demande, mais comment est-ce que vous êtes en Jésus-Christ? La réponse est, c'est par lui. C'est de Dieu que je suis en Jésus-Christ. Et si d'autres posent la question, comment? Voilà, le verset 30 nous le dit. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Pour nous signifie substitution. C'est que le Seigneur Jésus fait le travail. C'est lui qui a accompli tout ce qui est nécessaire. Donc, en cela, tous ceux pour qui il est venu sauver, ils sont unis déjà dans la personne de Christ, mais aussi dans son œuvre, parce que c'est écrit ici, a été fait pour nous sagesse, justice, écoutez bien, et sanctification et rédemption. Et tout cela, c'est écrit dans le verset 31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, nous voyons dans la manière d'être séparés du monde, dans le verset 16, nous sommes unis en Christ. Mais ici, dans le verset 17, en ce qui concerne la sanctification en Jésus-Christ, cela aussi nous unit, parce que c'est l'œuvre de Christ. Il a été fait pour nous d'abord sagesse. Quand les gens veulent me parler de leur profession de foi, et souvent, ils se reposent sur une décision personnelle qu'ils auraient prise à l'égard de Jésus. Mais ça, ce n'est pas la sagesse dont ça parle ici. La sagesse, c'est la révélation de Christ qui est la sagesse de Dieu. Il a été fait pour nous sagesse. Donc, quand est-ce que Christ a été fait pour vous sagesse? Cela veut dire que Dieu, par son esprit, s'est révélé en vous pour que vous voyez dans la personne de Christ et l'œuvre de Christ tout le salut accompli. Dans Ésaïe 53, 11, c'est écrit que c'est par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Notez bien, par sa connaissance, la sagesse de son serviteur. Laissé à nous-mêmes, on ne pouvait jamais satisfaire à Dieu d'une manière à ce que Dieu soit juste tout en nous justifiant. Non, il fallait le Seigneur Jésus-Christ qui avait la connaissance et la sagesse, le savoir-faire pour obéir parfaitement à la loi et la justice de Dieu afin que Dieu soit juste ou justifié ceux pour qui Christ est mort. C'est pourquoi tout cela est lié. Il a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Quand est-ce que les pécheurs qui sont sauvés étaient justifiés devant Dieu? C'est à la croix. Et quand est-ce qu'ils étaient sanctifiés? Le mot signifie être mis à part. C'est à la croix. C'est dans l'œuvre de Christ. Et à travers la rédemption, il y a la rédemption parce que il a payé la rançon pour les âmes de ceux que Dieu sauve. Mais il y a aussi la rédemption finale où nous serons libérés de ce corps à la résurrection. Tout cela, c'est l'œuvre que Christ a accomplie. Et ceux qui lui appartiennent sont donc unis en lui à cause de cette œuvre, exactement comme un bâtiment. L'édifice, une fois construit, est uni dans toutes ses parties, basé sur le fondement sur lequel tout est placé et fondé. Donc, c'est pour cela que Christ prie que le Père les sanctifie par sa parole. Quelle est sa parole? Dieu le Père n'a qu'une seule parole, une seule vérité. C'est écrit dans le verset 17, ta parole est la vérité. La parole, c'est Christ. La vérité, c'est Christ. Et c'est à travers Christ que Dieu le Père se révèle aux pécheurs. Donc, en cela, nous sommes unis. Maintenant, dans le verset 18, Christ dit encore dans sa prière, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Christ, le Rédempteur, est venu dans le monde, envoyé par le Père pour accomplir tout le salut et la rédemption de son peuple, et de prêcher, proclamer l'évangile qui concernait sa personne et son œuvre. Il n'a pas pris cet honneur pour lui-même, mais tout ce qu'il a fait, il a fait selon ce que le Père l'a envoyé d'accomplir. Donc, de la même manière que Christ a été envoyé dans le monde, ce sera le verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ce que le Seigneur suscite pour aller prêcher l'Évangile sont une réflexion de Christ et de son œuvre. Et ceux-là ne peuvent qu'annoncer ce qui leur a été révélé par Christ. Et c'est la même manière aujourd'hui. D'abord, c'est Christ qui se révèle en ceux qui l'envoient dans le monde pour proclamer et prêcher l'Évangile. Et en allant, ils ne font que prêcher et annoncer ce qui leur a été révélé. Je ne pouvais pas être en train de vous prêcher ce message si d'abord Christ ne m'a été d'abord révélé. Donc, comme il a été envoyé dans le monde. C'est-à-dire, qui est venu? Et pourquoi il est venu? Et pour qui il est venu? Et ce qu'il a accompli en venant? Tout cela est compris dans l'Évangile, dans la personne de Christ. Donc, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Et nous l'annonçons tel qu'il est. Dans cela aussi sont unis ceux qui sont les véritables enfants de Dieu. Vous n'allez pas voir un qui est envoyé par Christ prêchant une certaine doctrine et puis un autre qui est envoyé en train de prêcher le contraire. Non, nous sommes unis dans la personne et l'œuvre de Christ et dans sa parole, dans la vérité. C'est le même message et par là nous pouvons connaître qu'ils sont véritablement envoyés de Dieu. Alors c'est pourquoi Christ dit dans le verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Voilà encore la sanctification. C'est que Christ lui-même s'est sanctifié. Le mot signifie d'être mis à part. Il était mis à part pour le sacrifice du péché. Et en tout ce qu'il faisait, non seulement dans ses œuvres, mais aussi à travers sa parole et même dans l'esprit de la loi. Son obéissance était si parfaite que Dieu le Père a dit de lui, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais il s'est sanctifié lui-même, noté pour eux. Laissé à nous-mêmes, on ne pouvait jamais nous mettre à part dans une obéissance parfaite envers Dieu le Père, parce que nous sommes pécheurs. Mais Christ l'a fait à l'égard de ceux que le Père lui a donné. Donc, si nous sommes de ce nombre, C'est pour nous que Christ s'est sanctifié, et c'est écrit afin que aussi soit sanctifié par la vérité. C'est pourquoi ceux qui sont enfants de Dieu ne sont pas en train de courir, s'efforcer à vivre une vie parfaite devant Dieu pour avoir le salut. Si tel était le cas, personne ne serait sauvé. Bien vrai, nous désirons, par l'Esprit de Christ qui est en nous, obéir à Dieu et nous soumettre à lui et à sa gloire. Mais nous devons confesser qu'aucun de nous ne peut servir Dieu et obéir Dieu, même en partie, d'une manière parfaite. Donc, c'est ça qui nous condamne. Mais le Seigneur Jésus s'est sanctifié lui-même afin que nous soyons sanctifiés par lui dans la vérité qui le concerne, c'est-à-dire l'Évangile. C'est pourquoi j'aime entendre prêcher l'Évangile, parce que ça réconforte mon cœur et ça me donne l'espérance que Christ est ce qu'il dit qu'il est. Il est la vérité et il est le chemin et la vie. Par lui, nous nous approchons de Dieu. Voilà l'unité. Je suis en train de vous dire ce que tous ceux qui sont enseignés par l'Esprit de Dieu croient. Il y a cette unité qui est en Jésus-Christ, révélée ici. Donc, Christ dit dans le verset 20 de sa prière, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Christ, ici, est en train de dire que ce n'est pas seulement pour les disciples qu'il avait autour de lui, qu'il avait appelé, mais pour ceux qui devaient croire à travers leur parole. C'est pourquoi je suis en train de lire maintenant dans l'Évangile selon Jean. Il était un de ceux-là pour qui Christ s'est sanctifié, mais je ne lis pas cette partie comme si ça appartenait seulement à Jean ou les autres apôtres. Parce que maintenant, je suis un de ceux-là qui a cru en Christ par cette parole. Cette croyance est venue de l'Esprit de Dieu qui m'a ouvert les yeux et a tourné mes regards vers Christ et son œuvre unique accomplie au calvaire. Et ainsi, je crois à travers cette parole de Jean. Mais cette croyance est l'effet de l'œuvre de l'Esprit en moi. C'est dans cela que nous sommes aussi unis. Ce que nous croyons aujourd'hui au sujet de Christ n'est pas différent que ce qui a été révélé à Jean. Alors, c'est pourquoi il dit « afin que tous soient un ». Voilà le sujet de ce message. « Comme toi, Père, tu es en moi. » Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors voilà l'unité qui est en Jésus-Christ, accomplie par lui. Et ceux qui lui appartiennent et pour qui il est mort et qui sont élus par Dieu le Père ont cette foi commune. Et ils ont cette unité en ce qui concerne l'Évangile, et c'est que le salut est uniquement par le Seigneur Jésus-Christ seul, à la gloire de Dieu seul. Et comme le Père et le Fils sont un, par l'œuvre de Christ, tous ceux pour qui il est mort sont unis maintenant en lui par son œuvre. Dieu le Père, en regardant ceux pour qui Christ est mort, ne voit pas des individus, mais il voit le corps de son Fils. Et il approuve chaque pécheur en Jésus-Christ parce qu'il approuve son Fils. C'est pourquoi c'est écrit dans le verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc nous sommes unis dans ce corps de Christ, nous sommes unis par sa mort, nous sommes unis par son esprit, par sa grâce, mais nous sommes unis aussi dans cette gloire qui a été donnée à Christ, mais que Christ maintenant donne à son peuple. Une seule gloire. C'est pourquoi lorsque nous nous tenons devant lui, un jour, la gloire reviendra à Christ. À toi la gloire, ô ressuscité. Et c'est ce que nous chantons. Donc, dans cela, sont unis tous ceux qui lui appartiennent. Et puis, il dit dans le verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc, dans cela, sont unis ceux qui sont en Christ dans l'amour de Dieu. Notez, ça fait une distinction entre le monde et ce que le Père a aimé. Ce que le Père a aimé, il a donné à son Fils. Donc, c'est un amour particulier pour un peuple particulier à travers un sauveur particulier et un sacrifice particulier. Tous ceux que Dieu aime, il sauve. Il n'y a pas question de dire que Dieu aime des pécheurs qui finissent par aller à l'enfer, non. Ici, c'est évident qu'ils sont à Christ et ils sont parfaitement un en lui afin que le monde connaisse. Donc, voilà la distinction. Ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas les objets de son amour, ils regardent cet amour particulier dans la manière que Dieu sauve les pécheurs qu'il a donnés à son Fils, afin qu'ils connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, quel amour parfait de savoir que si je suis à Christ et si vous êtes à Christ, nous bénéficions de ce même amour commun et particulier de Dieu le Père. En cela, nous sommes unis. Et puis, pour terminer, c'est pourquoi Christ dit dans les trois derniers versets, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Quelle unité par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il donne son esprit pour unir chaque pécheur pour qui il est mort afin que nous soyons tous en lui mais aussi avec lui. C'est pourquoi Christ dit dans le verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Il n'est pas en train de prier pour tous les hommes du monde entier, mais pour ceux que le Père lui a donné. Son désir en tant que fils de Dieu, c'est qu'il soit éternellement avec lui. Donc en cela, sont unis en Christ les pécheurs de partout du monde qui vont partager le ciel et l'éternité avec Christ. Le ciel n'est pas un endroit, le ciel est une personne. C'est pourquoi Christ a dit au brigand à la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Voilà la gloire de ce que Christ a sauvé par son sang. Et voilà l'espérance de tous ceux qui lui appartiennent. Je me demande, est-ce que Christ est votre espérance? Est-ce que le Christ que je viens de décrire à travers la parole est celui en qui vous croyez? Sinon, vous êtes encore dans les ténèbres et quelque espoir que vous avez, il faut dire que c'est un faux espoir. La vraie espérance, c'est en Christ et ce qu'il a accompli pour des pécheurs tels que nous sommes.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shrevegrace.com. O-R-G.